Alors, c'est oui, c'est bon. Alors, je vais animer la seconde session avec Julien Virgos et Arnaud Rudboy, s'ils sont là. Oui. Alors, si vous voulez prendre place l'un et l'autre à la table. Pardon? Oui, alors, j'allais le dire. Donc, je suis Philippe Lyotard, je fais partie de l'équipe PIND donc auprès de Solveig et de Luc, et je travaille plus particulièrement moi, sur tout ce qui concerne le chantier corps, en fait. Hein. Chantier corps, chantier genre également, c'est-à-dire les questions qui engagent, qui font que le punk est un, selon moi, un point de départ à un certain nombre de transformations du rapport au corps qu'on voit aujourd'hui sous des formes très différentes. Donc je vais m'asseoir avec vous et puis je suis chargé par Luc et Solveig de gérer un petit peu la question du temps, de façon à ce qu'on ait un petit temps d'échange qui intégrera aussi l'intervention de Monique et de Philippe juste avant, c'est-à-dire qu'après vos interventions, on aura vraiment un échange tous ensemble sur à la fois ce qui s'est dit sur la radio, puisque vous allez dire maintenant l'un et l'autre. Alors je crois que le premier c'est Arnaud. C'est toi, bah, on va prendre par ordre de programme. Arnaud, ici, même les mémés aiment la castagne, paraît-il. Donc ça, on l'a déjà entendu quelque part. Les débuts de la scène punk toulousaine. Quand tu veux, pour une vingtaine de minutes, tu prends un micro et puis voilà.
Bonjour. Arnaud Rudboy, hein, c'est mon nom de scène. Donc je vous donnerai pas le vrai aujourd'hui. J'ai été invité pour parler du début de la scène punk à Toulouse. Alors je suis pas un expert, je suis pas un universitaire non plus. Voilà, vous ferez avec. C'est comme ça que ça va se passer. En gros, ce qui me vaut d'avoir été invité, c'est d'une part d'être Toulousain. D'autre part, le fait que ben voilà, je suis dans la scène punk à plusieurs postes depuis environ 25 ans maintenant, là, hein, que ce soit musicien, organisateur de concerts publics. Et j'ai aussi écrit un bouquin sur l'histoire du punk en France, une histoire du punk en France, pas l'histoire, mais une histoire du punk en France de 76 à 89. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à mes services pour venir animer ça. Alors, on m'a donné une tâche qui est un peu compliquée, c'était de revenir sur l'origine du punk, expliquer un petit peu ce que c'est que le mouvement punk, faire une espèce d'état des lieux de la scène punk, du début de la scène punk en France, et la même chose sur la scène toulousaine. Donc en soi, c'est pas forcément très facile, mais en plus, on m'a dit 20 minutes, c'est bien. Donc il y aura quelques ellipses, vous me pardonnerez, je vais essayer de parler un peu vite, peut-être plus façon rap, on va voir. Donc, retour sur les conditions de la naissance du punk. Donc, pour expliquer un petit peu d'où vient le punk, il faut revenir, donc on a dit punk, ça naît dans les années 70, il faut revenir un petit peu en arrière, dans les années 50, sur l'émergence du rock, du phénomène rock'n'roll aux États-Unis. Donc, comme pour tout genre musical, on va avoir la conjonction de plusieurs phénomènes, notamment des phénomènes, des nouvelles conditions économiques et démographiques. Au niveau de l'économie, au niveau de l'industrie de la culture, on a des gros changements, notamment au niveau du disque, jusque dans les années 30, 40, enfin 30. Le disque s'est fait sur des matériaux en laque qui sont très fragiles, donc c'est les fameux 78 tours. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il y a deux majeures compagnies, alors je ne sais plus, c'est RCA et une autre, qui vont développer les vinyles avec deux standards qui sont toujours restés, le 33 tours et le 45 tours. Et à l'époque, c'est vendu comme des disques incassables. Bon, on sait tous que c'est cassable, mais c'est comme dans les années 90, on nous a vendu le CD comme un disque incassable, on sait aussi que c'est cassable. Mais c'est quand même beaucoup plus costaud que les disques en lac, et donc ça va permettre à tout un tas de petits labels de pouvoir distribuer leur production un petit peu partout dans les États-Unis, ce qui avant était très cher, vu que c'était très fragile, et en gros c'était réservé uniquement aux major compagnies. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, au niveau des médias, notamment au niveau de la radio, la télévision arrive et on lève la limitation qui existait jusque-là du nombre de fréquences allouées aux États-Unis. Et donc, il y a une explosion de plein de petites radios un petit peu partout sur le territoire. Et en parallèle, on a l'apparition du transistor, ce qui fait que la radio, ça va devenir vraiment le média mainstream qu'on peut écouter un petit peu partout, au boulot, chez soi. On n'est plus dans dans les trucs d'image d'Épinal qu'on avait avant, où il y avait la grosse radio au centre de la maison, et on écoutait, et en gros c'était le chef de famille, souvent le père, qui décidait de l'émission à écouter. Donc là, ça change un petit peu ça. Et jusque-là, à la radio, c'était des orchestres qui jouaient la musique. On avait de la musique live qui était jouée. Et donc, sur les premiers disques qui passent, il y a plein d'artistes qui disent, pour qui c'est une hérésie, en fait, de passer de la musique en boîte, et qui mettent sur leur disque interdiction au passage radio, etc. Et du coup, comme on a beaucoup de petites radios, on va avoir une espèce de bataille pour l'audience, forcément. Et chaque radio va se spécialiser... Donc sur plein de courants musicaux, hein, c'est sur l'esthétique musicale plutôt que ça va se passer. Et du coup, il va y avoir une demande de musique, de styles musicaux différents auxquels les majors ne vont pas pouvoir répondre tout de suite. Donc du coup, on va avoir en parallèle la création de plein de petits labels qui vont être spécialisés sur des genres musicaux. Ça va être l'apparition des labels Sun, Imperial, etc., qui sont devenus mythiques aujourd'hui et qui au début étaient vraiment des tout petits trucs. Donc ça, c'est sur les évolutions économiques, on va dire, et des évolutions démographiques aussi, qui sont hyper importantes et qui vont vraiment être en lien après avec l'apparition du punk 20 ans plus tard. Donc, baby boom après la Seconde Guerre mondiale, et en parallèle, apparition du concept d'adolescence qui n'existait pas jusque-là. Avant, on était enfant et quand on avait un boulot, on devenait adulte, en gros, et c'est comme ça que ça se passait. Là, on a de plus en plus de jeunes, donc sur la tranche 16-24 ans, 16-25 ans, qui commencent à avoir un petit peu d'argent, qui sont encore étudiants, qui sont encore à la charge de leurs parents, et pour qui les seules dépenses, en gros, vont être liées à des dépenses de type culturel. Et donc, c'est cette adolescence, enfin, c'est pas une classe sociale, mais ce groupe social, va prendre conscience de lui-même, va développer ses propres codes, ses propres rites, ses propres valeurs, et qui vont être essentiellement tournés autour d'objets culturels, notamment du cinéma et de la musique. Donc, en gros, on a donc un nouveau segment de marché, les ados qui ont du fric, qui vont le dépenser dans des dépenses culturelles, donc les majors compagnies, elles foncent là-dedans, et donc elles vont essayer de produire ce qui intéresse les jeunes, donc la musique, et donc vont pousser à fond le rock'n'roll qui naît à ces années-là. Donc, je ne m'attarde pas, parce que je n'ai pas beaucoup de temps sur les créateurs aussi, mais le point important, c'est de voir que la création du rock'n'roll, en fait, c'est le premier moment où on va mixer des acteurs noirs et des acteurs blancs, des colored et des non-colored people. Ce qui est très important, les débuts de la lutte contre la ségrégation, c'est dans les années 50, c'est en même temps que c'est contemporain de l'apparition du rock'n'roll. Et donc c'est important par rapport aux revendications portées par le rock'n'roll. Je fais vite aussi, donc revendications portées par le rock'n'roll à l'époque, elles peuvent paraître très naïves et très puériles aujourd'hui, c'est le fun, donc c'est rock around the clock, alors excusez mon anglais, hein, je suis de Toulouse, rock around the clock, donc en gros ce qui est dit dans cette chanson c'est on va danser toute la nuit et si le groupe baisse d'intensité, nous on va gueuler pour que ça chante un peu plus, voilà, une espèce de truc, le fun, la liberté, on va danser. Et en même temps, c'est quand même un message assez fort dans l'Amérique puritaine de ces années-là, où voilà, on essaye l'idée, c'est briser le cadre, briser la domination des parents, des adultes, etc. Deuxième type de revendication, ça va être par rapport au sexe. Donc une espèce, c'est les premières pierres de la libération sexuelle. Donc avec des morceaux comme Great Balls of Fire. Donc voilà, je vous laisse deviner en fait quelles sont les allusions sexuelles là-dedans, mais il y a aussi la gestuelle, les mimiques, voilà, le déhanché d'Elvis, Elvis de Pelvis, etc. Ou mine de rien, aujourd'hui ça peut faire sourire parce qu'il suffit d'allumer la télé, n'importe quoi, on est à des années-lumière de ça, on est beaucoup plus loin, mais à l'époque c'est quand même un choc assez important. Le dernier type de revendication, c'est une espèce d'hymne à la consommation adolescente, avec le morceau, par exemple, Blue Suede Shoes. En gros, c'est la maison peut tomber, il peut y avoir la guerre, il peut y avoir n'importe quoi, tant que tu ne marches pas sur mes chaussures en dain bleu, tout va bien. Donc voilà, tous ces trucs-là, des revendications plutôt mues par un désir de liberté, d'indépendance, d'autonomie, très individualistes, mais qui, quand même, vont être un gros coup de pied dans la bien-pensance américaine. Voilà, jusqu'à la fin des années 40, c'était vraiment une Amérique très protestante, le WASP existait beaucoup, Et là, bon, c'est le WASP qui est remplacé en fait par la société de consommation. Et donc, bon, enfin, on pourrait parler beaucoup plus de temps. J'ai pas le temps ici sur ces revendications-là. Bref, en tout cas, c'est les premières pierres qui sont mises dans les années 50 sur l'idéologie pacifiste, le flower power, le mouvement hippie des années 60, et après le no futur des punks dans les années 70. Donc là, on saute une décennie, on va revenir donc au punk partout dans le monde. Donc le punk qui naît dans les années 70, je me répète, pour schématiser, on peut dire que c'est aux États-Unis que se crée en gros l'identité musicale, le style musical, et que ça va être plus en Angleterre que vont être affinés le look, le discours et tout ce qui va autour. Alors définir le punk, j'ai vu que c'était dans votre cahier des charges, bon courage. Parce que voilà, moi, pour avoir rencontré énormément d'acteurs de cette scène-là, et enfin, voilà, pour m'être posé aussi la question, c'est hyper difficile parce qu'il y a autant de définitions que de personnages rencontrés. Et comme il y a, pour tous les gens qui ont traversé, qui ont été punk à un moment ou qui le sont toujours, il y a un tel investissement dedans qu'on a l'impression que c'est ce qu'on a vécu qui est le vrai punk et que ce qui est après, ben, c'est pas aussi bien que ce que nous on a vécu. Et donc il y a un peu ce truc-là. Donc il y a ceux qui. C'est dur de donner une date de naissance du punk. Bon. On s'accorde sur 76, moi j'aime bien 77 parce que c'est aussi l'année de la mort d'Elvis Presley, donc pour être punk 77 ça me plaît, même si évidemment il s'est passé plein de choses en 76. Et voilà, plein de gens disent ben, c'est mort en 78, en 79, en 81, et là on est en 2016, et ça, voilà, en gros on peut citer quasiment toutes les années là-dessus. Donc c'est pas une esthétique musicale, c'est-à-dire que là on va peut-être pas avoir le temps maintenant, mais j'ai amené des disques, mais pour montrer un petit peu le champ de l'esthétique musicale que ça peut recouvrir. C'est pas vraiment une esthétique visuelle non plus, même s'il y a des codes qu'on va retrouver un petit peu partout. C'est pas un corpus politique cohérent non plus. Est-ce que il y a de l'eau? Je suis en train de me dessécher. De l'eau. Je vais mourir.
La bière.
Ou la bière, oui. C'est vrai qu'un truc sur le punk à 10h du matin, c'est... Bref. Donc sur le punk, c'est plus une envie, voilà, les trucs qu'on peut retrouver qui vont être généraux et transversaux, ça va être plus une envie d'exposer le cadre, envie de faire... envie de faire soi-même, donc le fameux DIY dont il a été question auparavant, et des trucs contradictoires, envie d'être constructif mais destructif en même temps, enfin voilà, c'est la pagaille un petit peu. Donc, que ce soit au niveau chronologique, esthétique, politique, on est dans une espèce de continuum depuis le milieu des années 70, mais il n'y a pas vraiment de borne, enfin, c'est très très compliqué de circonscrire ce sujet-là. Donc moi j'ai plus travaillé sur le punk en France, donc de 76 à 89, je ne vais pas refaire tout ça parce que je n'ai pas le temps, au début j'étais parti là-dessus, mais on va arrêter un petit peu avant. Et donc je considère moi qu'il y a quatre périodes dans l'histoire du punk en France, la première c'est de 76 à 79, donc c'est les tout débuts de la scène punk. Donc en 76, pour donner quelques petits repères temporels, on a le premier album des Ramones qui sort aux États-Unis, premier 45 tours des Sex Pistols en Grande-Bretagne, et fin décembre 76, une espèce de tournée magique, l'Anarchy Tour avec à l'affiche Sex Pistols, Damned, Les Clash et Johnny Thunder and the Heartbreakers. J'aurais beaucoup aimé voir ça, j'étais trop petit, mais j'aurais beaucoup aimé voir ça. À l'époque, il n'y a pas de scène en France, il ne se passe quasiment rien. Alors, quand je parle de scène, c'est voilà, la réunion d'artistes, de lieux, de publics, c'est-à-dire c'est tout ce mouvement-là. Alors, on a quelques petites apparitions. Il y a le groupe Metal Urbain à Paris, les Stinky Toys. En Normandie, on a les Dogs et les Ovilievenstein. Merci beaucoup. Et alors, on peut expliquer le fait que les premiers germes soient à Paris et sur la Normandie, de par la proximité avec l'Angleterre. Donc, on a la contamination du punk en France. Elle se fait souvent, c'est un truc que j'ai souvent entendu dans toutes les interviews que j'ai pu faire, par les grands frères de copains. Il y a un grand frère de copains qui est revenu de Londres, qui a ramené tel disque, qui a ramené tel truc. Et pour beaucoup de gens, ça fait écho complètement. On se retrouve complètement dans l'image, dans le son, dans ce côté pagaille, dans ce côté, voilà, une espèce d'urgence de « on y va ». Et donc, c'est la proximité, parce que quand on est en Normandie, c'est beaucoup plus facile d'aller en Angleterre. Nous, ici, on va au pas de la case, on va en Andorre, mais bon, c'est pas les mêmes choses qui s'y passent. Et Paris aussi. Et donc voilà, il y a aussi le fait qu'il y a des radios pirates à l'époque qui émettent depuis l'estuaire de la Tamise. Et on peut capter ces ondes-là sur les côtes françaises. Et donc, il y a aussi cette accroche par le son directement. En province, par contre, c'est un petit peu le néant au niveau du punk. Excusez-moi. Beaucoup mieux. Alors, il y a l'exception du festival de Mont-de-Marsan, dont je ne sais plus où tu es à parler. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même relativiser un petit peu ce festival-là. Aujourd'hui, si on en parle, on va rencontrer des milliers de personnes qui disent y avoir été, qui ont vu, c'était super, c'est un événement fondateur. On pourrait remplir un zénith, presque, je pense, avec... alors qu'à l'époque, a priori, quand même, il y avait 500, 600 personnes dans ce festival-là, et beaucoup d'Espagnols et d'Anglais. Donc voilà, alors c'est vrai que ça a été autoproclamé le premier festival punk européen, c'est vrai que c'était le cas, mais c'est pas du tout représentatif de ce qu'était la scène française punk à l'époque. Donc la France, elle accuse un réel retard au niveau de la scène rock, tant au niveau des structures, donc les salles, les studios d'enregistrement, etc., que de la culture en général, c'est-à-dire que même quand il y a ce festival-là, avec quand même des sacrés groupes à l'affiche, hein, je ne vais pas tous vous les redire, mais dans la presse, il n'y a rien, dans Rock'n'Folk, il y a un petit truc laconique qui dit en gros, le festival n'a pas été annulé, mais ils ne vont pas s'étendre dessus. Et donc il n'y a pas de réseau et pas du tout de relais pour cette scène-là, donc sur cette période 76-79, on va dire. Et donc sur Toulouse, c'est la même chose, Empire, pas de scène punk du tout. On a beaucoup de groupes de rock, mais qui sont plutôt des groupes issus du blues, du rock sudiste, du jazz rock, du rock progressif. Une scène qui est un petit peu à l'envers de la scène punk. Il n'y a pas de lieu, pas de presse, pas d'artistes. On va avoir que des musiciens confirmés qui sont dans une optique un petit peu professionnelle. Un petit peu c'est péjoratif ou pas, vous prendrez comme vous voulez, mais voilà, un petit peu dans la dynamique de groupe de baloches, de balochards, c'est-à-dire qu'en gros, c'est notre gagne-pain, et voilà, et donc on fait ça de façon très professionnelle, et on a des réseaux très, 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 très formels, très cadrés. Il y en a quelques-uns qui vont percer, il y a le groupe Goldfinger qui deviendra Gold et qui sera une sommité de la musique toulousaine dans les années 80, mais on n'est pas dans l'esthétique qui nous intéresse aujourd'hui. Du tout. Il n'y a pas d'entité réelle au rock toulousain non plus. Hein. On peut pas dire le rock toulousain à cette époque-là, c'est comme si, c'est comme ça, et donc encore moins un punk, comme dans la majorité des villes de province de toute façon à l'époque. Un truc important par rapport à la scène à cette époque-là, c'est la violence dans les concerts. Donc de nombreux concerts se font prendre d'assaut. Donc j'en ai listé quelques-uns, Statu Quo, Ange, Magma, Little Bob, voilà, où les concerts se passent mal, les portes se font casser, on rentre gratos, et voilà. Alors, j'ai pas réussi à trouver l'explication de ce phénomène-là. J'ai lu des articles où, en gros, il y avait des groupes d'extrême-gauche qui étaient mis en cause, dont la JCR, et soi-disant avec une espèce d'idéologie politique de réappropriation de la culture, etc. Je pense que c'est complètement galvaudé. Je pense que c'était plus une envie de foutre la zone et de ne pas payer les 5 ou les 10 francs demandés à l'époque. Mais bon, si on voit ces concerts attaqués, Statu Quo, Ange, Magma, Little Bob, on n'est pas du tout dans du concert punk quand même, même si l'attitude du public, pour le coup, peut l'être un petit peu. En même temps, on a la mairie de Toulouse à l'époque, qui est la bande droite conservatrice, vraiment pépère, plan-plan, qui interdit les concerts sauvages. Enfin, bref, on arrive à une situation où, en gros, les promoteurs ne veulent plus faire passer les groupes sur Toulouse. Et pendant cette année-là, où plein de choses se développent en France, on a une espèce de trou noir sur Toulouse, où les tournées passent de, en gros, allez, on va dire Montpellier à l'ouest, ça va passer sur Bordeaux, sur Pau, enfin voilà, en gros, en tout cas, ça évite Toulouse, parce que le jeu vaut pas la chandelle, c'est a priori trop de problèmes possibles par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer. Il n'y a aucune trace discographique, enfin je n'ai pas trouvé, peut-être que certains en ont, mais de groupes punk sur cette période sur Toulouse, même s'il y a quelques groupes qui existent déjà. Alors les Fils de Joie, on en parlait avec Tatane tout à l'heure, on n'est pas vraiment dans le punk classique, mais bon, il y a ce côté un petit peu dandy, eux ils se revendiquaient punk en tout cas à l'époque. Il y a MKB, là, donc Messagero Killer Boy, de FGO 100, qui se crée en 79 aussi. Mais qui ne sort aucun disque à l'époque, enfin, de toute façon c'est très, très compliqué de sortir un disque à l'époque dans cette scène-là, et qui va aller de toute façon faire sa carrière sur Paris quelques années après. Donc ça c'est la période 76-79, j'ai mes feuilles qui sont collées. Voilà, la période 80-82, donc là on passe sur autre chose. Depuis 1979, donc Margaret Thatcher dirige le Royaume-Uni, donc avec sa politique inflexible, hyper autoritaire, ultralibérale et antisociale. Et donc on va assister en Angleterre à une radicalisation de la scène punk, donc avec une transformation un petit peu du discours et aussi de l'esthétique musicale, où on va voir l'apparition du street punk, de la Oi, mouvement Punk's Not Dead. Donc ça c'est en Angleterre, on n'est pas encore là en France, ça va arriver très vite après. Donc en France, c'est les débuts de la structuration de la scène, donc avec notamment la libéralisation de la bande FM, donc je ne reviens pas dessus puisqu'il en a été question beaucoup avant. Mais ça va être un élément vraiment hyper important, hyper central pour le développement de la scène punk, notamment par le fait que ça permet à des groupes d'être écoutés. Et ça va aussi être l'occasion, entre les différentes radios associatives qui seraient comme ça, de faire des échanges de cassettes. On est sur la cassette à l'époque encore. Mais parce que, j'y reviendrai après, mais on est dans une scène hyper cloisonnée géographiquement. Et ces radios associatives vont permettre un petit peu de faire circuler l'information. Les fanzines. Donc l'apparition de gros fanzines, qui certains qui vont rester mythiques, comme New Wave ou Burning Rome, donc ça c'est au niveau français. Fin 82, les premières émissions qui parlent de rock à la télé, donc Les Enfants du Rock et Platine 45 de Jackie, pour ceux qui s'en souviennent. Et pourtant, à cette époque-là, l'industrie du disque, elle est complètement sourde ou aveugle, elle ne veut pas voir en gros ce qui est en train de se passer. Ils sont toujours à la recherche du nouveau trust et du nouveau téléphone, qu'ils ne vont pas trouver. Le punk pour eux, ils ne voient pas ce qui est en train de se passer, ils ne voient pas la lame de fond que ça va être dans les années 80, et ils vont rattraper le... Tu veux que j'aille plus vite, hein? Ouais. Allez, je me dépêche. C'est chiant ce que je dis, c'est ça que tu dis? Bref, en tout cas, alors oui, je vais plus vite. Ouais. Des éléments importants, c'est des concerts qui se font à l'époque dans des conditions hyper déplorables, au niveau du son, au niveau de l'accueil du public, au niveau de l'accueil des artistes, des concerts hyper violents, parce que c'est le début de l'apparition des bandes. Alors, bandes qui peuvent être géographiques, qui peuvent être affinitaires, qui peuvent être suivant les styles musicaux, les mouvements de jeunesse. On va voir les Teddy Boys, les rockers, les punks, les skins qui commencent à être là. Et comme on a une offre de concerts qui est très réduite quand même, forcément tout le monde va au même concert et forcément on va avoir des étincelles qui vont être liées à des motifs politiques ou autres. Mais souvent ça dégénère. Donc sur Toulouse, c'est la période où les concerts reprennent. On a des groupes, une nouvelle génération de groupes qui vont être plus jeunes, moins expérimentés, qui ne vont plus être dans la dynamique baloche dont je parlais précédemment. Et ce qui est étonnant, c'est que le style musical qui arrive sur la ville, ces groupes-là, vont être plus dans le post-punk et la new wave, en fait. C'est-à-dire qu'on saute, on n'a pas de groupe punk sur Toulouse à cette période-là, en fait. On passe du rock progressif à la new wave. Donc, bon, si j'amène quelques disques, on pourra les écouter un petit peu plus tard dans la journée. Donc les groupes, ils ont été cités déjà de cette époque-là, Classé X, Procédé Fulbert, Perspective Nevsky. On a aussi les Cambrons de Castres, des nouveaux médias, donc l'apparition d'Éphémère, je vais vite, apparition du CAM aussi à Donneville, qui est un lieu qui permet aux groupes de répéter et qui propose à l'époque un petit studio d'enregistrement en 8 pistes. Apparition de Fanzine, 19. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les grands, enfin marrant, je ne sais pas si c'est marrant, mais tous ces éléments-là qui vont être vraiment fédérateurs de la scène et qui vont vraiment participer à sa construction, plus de 30 ans après, ils sont toujours là. Alors, 19 n'existe plus vraiment, mais on en a Zigit, on a Armadillo et tout ça, tu es toujours là, Tatane. Le CAM existe toujours, FMR existe toujours. Dans la période d'après, on va avoir le Bikini, mais ça se joue à un an, mais qui est toujours là. Et donc, c'est marrant de voir que les trucs qui ont vraiment contribué à construire la scène au début des années 80 sont toujours là 35 ans après. Alors qu'il y a plein d'autres choses qui sont passées, qui ont disparu. Le gros problème de Toulouse à cette époque-là, c'est le problème des salles. Et j'ai retrouvé un vieux tract de FMR qui dit que son studio, c'est la dernière salle de Toulouse où le rock peut se jouer à Toulouse. Bon, il y a quand même le Pied à l'île Jourdain, le Théâtre du Thor qui sont voilà, les endroits où on peut se produire. Mais on est encore, comme depuis la fin des années 90, dans des problèmes de jauge, c'est-à-dire qu'on a des endroits où on peut accueillir beaucoup de public, des endroits où on peut en accueillir très peu, et pour les groupes un petit peu intermédiaires, qui sont un petit peu le lot important de cette scène-là, c'est compliqué de se produire. Je vais vite. Ensuite, la dernière période que je vais traiter là, faute de temps, c'est la période 83-85, où là, on est vraiment dans la consolidation de la scène et dans ce qui s'est appelé l'alternative. Donc là, il y a énormément de labels qui se créent. Alors, au niveau français, c'est surtout sur Paris, c'est Bondage Records, c'est Gougnaf en banlieue, Visa, Negative Records, etc. C'est aussi en région des labels comme Punks à Toulouse, c'est à cette époque-là qui se crée, KO en France à Orléans, Closer au Havre. Donc plein de petits labels qui ne sont pas forcément en concurrence, mais voilà, qui sont pour tous créés par des gens qui sont issus de la scène, qui ont été en but au même problème, rareté de l'offre, cherté de l'offre, etc. Et en gros, qui créent les labels de ce qu'ils voudraient écouter. Donc voilà, chacun un petit peu dans son style différent, mais... voilà, je me dépêche. Donc, apparition de plein de petites scènes locales. Alors, j'ai vu par rapport à la carte qui était présentée, il y a plein d'endroits qui manquent. Hein. Donc là, vous êtes surtout sur l'Ouest, mais il y a Montpellier qui n'était pas cité là, il y a Saint-Étienne, il y a Blois. Enfin, il y a plein d'endroits. Forcément, c'était pas exhaustif votre truc. Et Toulouse aussi, où il commence à y avoir réellement une scène punk, new wave. Enfin voilà, punk et assimilée, on va dire. Donc j'en viens à Toulouse rapidement. Donc là on a réellement des groupes estampillés punk, on a SS20, Sous-Sol, les Cambrons de Castres et d'autres groupes encore de post-punk New Wave. FMR sort sa première compilation à cette époque là et donc au niveau d'infrastructure ça commence à se densifier et à se solidifier, et donc c'est 83 l'année de création du Bikini. Et puis bon, plein de petites salles, le Roxy, le Soluble, Regalty, l'Atomium, fameux disquaire qui se crée dans ces années-là aussi. Et un truc important, on ne va pas avoir le temps de développer là, mais qui est important pour la scène à cette époque-là, c'est la naissance de l'antifascisme radical. Je l'ai sauté avant, mais dans la période précédente, on a vu un rapprochement des scènes punk et de la scène autonome. Dans les squats à Paris notamment, voilà, et donc ce rapprochement se concrétise aussi à Toulouse avec la création du SCALP, donc en 84, et fin 85, donc un gros concert du SCALP, un concert Geronimo, puisque voilà, c'est l'époque aussi où le FN commence à faire ses premiers scores à sortir dans les élections. Et donc concert du SCALP avec City Kids, Dawal 7, donc, qui n'est pas vraiment punk, mais qui fait partie quand même de la scène toulousaine, et les Dogs avec à peu près 2000 personnes au Parc des Expos. Donc je vais arrêter là. Donc en conclusion, on a la France qui est très en retard sur l'Angleterre, Toulouse qui est très en retard sur la France. Au tout début fin des années 70, début des années 80, le retard va quand même vite se combler. Et on en arrive à ce que j'appelle le mystère toulousain, le paradoxe toulousain que j'ai pas su répondre, auquel j'ai pas su répondre, où Toulouse est vue comme une ville rock, une ville punk, c'est-à-dire que pour beaucoup de groupes qui ont tourné à l'époque, beaucoup de public, Toulouse est une ville super rock. Alors on va citer, ça va être le Bikini, FMR, voilà. Enfin, je bosse en ce moment avec les Shérifs, pour eux, Toulouse, le Bikini, c'est un truc. Donc Toulouse a cette renommée de ville rock, mais il n'y a pas de scène rock, il n'y a pas de groupe. On ne peut pas dire, voilà les trois groupes phares du punk à Toulouse. Et donc c'est quelque chose que je ne m'explique pas vraiment. Et voilà, j'arrête là et je vous laisse la journée pour répondre à mon questionnement. Merci.
Merci Arnaud.